RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Écosse. L'agriculture britannique est l'un des secteurs qui a le plus à perdre dans le Brexit. Et c'est encore plus vrai en Écosse où la PAC, la politique agricole commune, fournit les deux tiers du revenu agricole. Alors maintenant que la première ministre, Theresa May, a déclenché la procédure de divorce, comment les acteurs de la filière du bœuf d'Écosse abordent-ils cette nouvelle page de leur histoire? Après le Brexit, à quelle sauce seront mangés les éleveurs écossais? Un grand reportage signé Dominique Bayard.
Appartenir à l'Europe, faire partie d'un marché est d'une importance vitale pour tous les secteurs de l'agriculture écossaise. Il y a vraiment très peu d'exploitations agricoles en Écosse qui peuvent se permettre d'ignorer la question du Brexit et de ce qui va se passer après.
Johnny Hall est le conseiller politique de la branche écossaise du National Farmers Union, le syndicat national des fermiers écossais.
J'ai pas les chiffres en tête, mais l'économie écossaise est beaucoup plus rurale que l'économie anglaise. La population en général vit sur une partie très limitée de l'Écosse, et donc on a un territoire immense qui est au centre de l'Écosse, le nord et l'ouest de l'Écosse, où il y a très peu de population. Ces grands territoires sont des territoires naturellement pour l'agriculture, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire dans ces zones-là. Donc c'est pour ça que l'agriculture est très importante en Écosse.
Le français Laurent Vernet travaille pour l'Office écossais de la viande. Dans les contrées les plus rudes, il n'y a pas d'autre alternative que l'élevage. L'Écosse en a tiré un produit d'exception, le scotch. Il ne s'agit pas du whisky, un autre produit phare de l'agriculture écossaise, mais du bœuf.
L'Écosse est vraiment le bercail de la viande. C'est une viande qui est simple, pas prétentieuse, qui ne va pas chercher des noms grandiloquents. C'est un produit de la nature, c'est le goût de la nature. C'est un peu le goût de la viande de nos enfances, toute simple.
Cette viande réputée bénéficie du label européen garantissant son origine, l'IGP, l'indication géographique protégée. La filière fait travailler 50 000 personnes, à peu près autant que le whisky, et en revenu, c'est 2 milliards de livres par an. Les exportations écossaises de viande ont bondi de 11% en 2016. Pour rencontrer les acteurs du bœuf écossais, il fallait d'abord le goûter, m'a suggéré Laurent Vernet.
Bon appétit.
Bon appétit.
C'est donc dans un bon restaurant à viande de Édimbourg que je l'ai retrouvé, attablé avec Ian Anderson, un représentant du Écosse.
Un verre de vin ou de bière?
Quoi ça fait?
Du rouge, s'il vous plaît, de préférence français, c'est mon favori.
Tu réalises qu'on n'en aura peut-être plus après le Brexit?
Je ne crois pas, il y a toujours un marché pour un bon produit. Quelle que soit la situation après le Brexit, les gens voudront toujours boire du vin français dans ce pays et les gens voudront encore manger du bœuf écossais dans le monde entier.
L'association écossaise des négociants de viande, dont Ian Anderson est le secrétaire général, comme le Quality Meat Scotland, l'office écossais de la viande où travaille Laurent Vernet, ont tour à tour mis en garde contre les dangers du Brexit, perçus comme néfastes pour la filière. Mais sur le terrain, tous deux se préparent déjà à la sortie de l'Union.
Laurent, je viens de recevoir un email de l'association du bœuf écossais. Ils ont une demande d'une société qui veut exporter à grande échelle vers la Chine via les Pays-Bas. Donc ils m'ont demandé de leur faire une liste des sociétés capables de les fournir. C'est le genre de requête que tu recevras de plus en plus une fois qu'on sera à l'extérieur de l'Union européenne.
Oui, avec ou sans le Brexit, on est ouvert à toutes les affaires de toute façon. Donc toutes les requêtes nous intéressent.
Si quelqu'un de Chine veut nous parler, on leur parlera. Même si pour le moment, on ne peut pas exporter en Chine. Ce sera peut-être un marché intéressant dans les prochaines années, donc on doit rester ouvert.
75% du bœuf écossais est destiné au marché britannique. Le reste est expédié essentiellement en Europe.
I don't believe trade into Europe will stop.
Je ne pense pas que le commerce avec l'Europe va s'arrêter, mais il y aura une chute, une baisse des quantités qu'on vend en Europe. On devra remplacer cette réduction en produisant plus pour vendre encore plus dans d'autres pays. Et d'après les premières indications qu'on a, beaucoup de pays non européens ont envie de passer des accords avec le Royaume-Uni. L'Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont déjà dit, ainsi que le président Trump l'a dit aux États-Unis. Il y a aussi des questions en suspens au sein de l'Union européenne. La plupart de la viande écossaise va en France et au Benelux, environ 68 à 70%. Donc là encore, ça dépend de la capacité du Royaume-Uni à signer un accord de libre-échange avec l'Europe dans des termes favorables à la poursuite des échanges.
On terms which make that continue to be possible.
The main export for Scotland, for beef and for lamb, is definitely France.
Le principal pays d'exportation pour le bœuf écossais et pour l'agneau, c'est la France. Mais depuis, disons, 4 ans, le volume exporté en France et au Benelux a beaucoup baissé. Et c'est pareil en Italie, qui est aussi un marché très important. Et ce mouvement a été initié par une vague de nationalisme, spécialement en France, où les supermarchés ont décidé de donner la priorité aux produits français. Et ils ne voulaient plus de produits européens ou alors de produits vendus avec des rabais. Et nos produits sont chers, nos produits sont de qualité supérieure, donc l'Écosse n'a pas de raison de consentir des remises sur ces produits. Donc on a progressivement retiré ces produits du marché français pour les vendre ailleurs. Et l'industrie a été très très bonne. Elle a su très rapidement se tourner vers d'autres marchés intéressés par la qualité et prêts à payer pour ça.
Ce marché de niche est assez agile à l'extérieur, mais à l'intérieur, il doit composer avec les contingences locales. Les abattoirs, par exemple, redoutent la pénurie de main-d'œuvre que pourrait provoquer le Brexit, explique Ian Anderson.
Le pourcentage de travailleurs de l'Est est très élevé, très élevé. Dans les abattoirs en Écosse, c'est sans doute 40%. 40% de non-britanniques en provenance du monde entier. Mais le Premier ministre a dit que si les Britanniques qui travaillent en Europe peuvent rester, qu'ils bénéficient des mêmes droits, alors dans ce cas, la même chose s'appliquera aux citoyens européens présents sur le sol britannique.
At first, people were saying, "Oh, the lobbies sent back home," but I don't think that's going to happen at all.
Les gens disent que les lobbies vont essayer de les mettre dehors, mais je pense que cela ne va absolument pas se réaliser. C'est possible qu'ils s'en aillent, que certains partent, mais pas parce qu'on leur a dit de partir. S'ils partent, c'est par exemple à cause des variations de la livre par rapport à l'euro, des variations qui feraient que ce ne serait plus avantageux pour eux d'être ici.
Enfin, avec ou sans les bouchers de l'Est de l'Europe pour préparer le bœuf écossais, il faudra d'abord le produire. Mais à quel prix ?
Si vous regardez du côté de l'approvisionnement, on a la PAC. On a la PAC depuis longtemps, les fermiers en ont l'habitude. Les éleveurs et l'association de viande écossaise ont fait des efforts pour adapter la PAC afin qu'elle permette de produire plus. Ces dernières années, notre production a été en deçà de nos espérances. Donc je ne pense pas que les subventions vont s'arrêter quand la PAC s'arrêtera, parce que le Royaume-Uni devra mettre en place un système de soutien d'un autre genre. Et pour le moment, on ne sait pas ce que ce sera. Mais c'est une discussion que l'industrie doit avoir avec le gouvernement. Mais en tout cas, il faudra faire quelque chose pour continuer à produire plus en ce moment.
Les subventions européennes fournissent en moyenne les deux tiers du revenu agricole écossais. Comment survivre sans la PAC ? C'est la question essentielle et urgente pour tous les paysans, d'après Johnny Hall du syndicat agricole. On le retrouve chez les Dundee, des éleveurs installés à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest d'Édimbourg, à Broxdon.
C'est une très bonne ferme d'élevage qui produit un bœuf de grande qualité. Ils sèment aussi pas mal de graines, donc ils cultivent une surface assez importante. Et ils sont en train de s'adapter à la nouvelle PAC depuis 2 ou 3 ans, avec le pilier du verdissement et plein d'autres défis à relever. Et maintenant, ils vont devoir à nouveau s'adapter, probablement à un nouveau monde, hors de la politique agricole commune. Mais on ne sait pas à quoi ressemble ce nouveau monde. C'est une période assez palpitante pour tous les fermiers écossais.
Chez les Dundee, l'agriculture, c'est une passion et une entreprise familiale. David, qui nous reçoit avec sa maman, Margaret, travaille avec son frère et son papa.
On choisit toujours un endroit calme et paisible, sinon les vaches sont contrariées et c'est pas bon pour la viande. On déroule aussi les bottes de paille à la main, c'est plus confortable pour les vaches et c'est bon pour la viande.
Quelle race de vache est-ce que vous élevez ?
Ce sont des limousines croisées, il y a aussi des charolaises croisées. La majorité, ce sont des limousines, c'est ce que demande le boucher.
Vous savez, ce sont des limousines par leur nom, mais je dirais qu'elles sont écossaises. Oui, définitivement écossaises, mais avec un nom français.
Et l'herbe est écossaise.
Palmer.
Oui, le fourrage est écossais et le fermier est écossais.
So, who would you rather pick up while you're shopping?
Scotch beef. Make it your first choice.
It's not a job you'd go into to make money.
C'est pas un métier qu'on choisit pour faire de l'argent, mais on a un mode de vie très agréable au quotidien. Si j'étais pas fermier, je me demande ce que je pourrais faire d'autre. On a une centaine de vaches et on élève des veaux avec. Et on a aussi à peu près 300 vaches qu'on engraisse. On cultive à peu près 2500 acres, on sème du blé, de l'orge de printemps.
Et vous avez des subventions? Subsidies?
Yes, we get the subsidy on the land that we farm, and we also for the calves that we get.
Oui, on a des subventions pour la terre qu'on cultive et aussi pour les veaux. On a aussi une aide, une prime par veau. Ce qu'on reçoit pour les veaux, c'est pas grand-chose. Ça compte plus pour les grandes cultures. Sans les subventions, on ne ferait pas de profit. Et même sans parler de profit, c'est déjà un revenu pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les subventions sont encore indispensables, hélas. Mais ce serait chouette d'avoir un prix plus juste pour notre production. Mais on en est encore loin, malheureusement.
Comme tout éleveur, ils aimeraient bien vivre dans leur propre production. Mais c'est vrai que les supports d'État sont quand même importants pour survivre. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre. Et qu'actuellement, le marché est vraiment orienté pour aider les consommateurs à acheter de la nourriture à des prix les plus justes. Ça fait partie de la politique générale. Et pas forcément au prix où la nourriture est produite.
Et quand vous avez entendu le résultat du référendum, quelle a été votre réaction?
J'étais plutôt content, je pensais que c'était le bon choix, mais le temps nous dira si c'est le cas. Peut-être que je me trompe complètement, ce sera difficile au début, mais on y arrivera. Oui, je le pense, de toute façon.
On cultive une grande ferme, donc c'est pas comme pour les petits fermiers. La Nouvelle-Zélande l'a fait. Ils ont dit qu'il y avait des années maigres pendant un certain temps, mais que ça repart et qu'ils commencent à faire du profit. C'est possible de changer.
Les fermiers sont plutôt résistants. Il y aura des années difficiles, mais je crois que ceux qui veulent continuer la ferme y arriveront. Certains vont devoir revoir leur méthode pour gagner en efficacité, mais ceux qui veulent continuer, à mon avis, seront encore là dans 5 ans. Beaucoup de gens cultivent, mais ne sont pas des fermiers efficaces. Les subventions les maintiennent dans les affaires. S'ils ne recevaient plus d'aide, ils seraient obligés de vendre leur ferme ou de louer leur terre, ce qui profiterait à la génération plus jeune. Je pense que les subventions les empêchent de prendre leur retraite ou de stopper leur activité. Je pense que les petites fermes sont amenées à disparaître. Il y aura plutôt de grandes unités avec le coût des machines, des équipements. Vous avez besoin de terres plus grandes pour rentabiliser tout ça. Je pense qu'il y a encore de l'espace pour l'agriculture. J'aimerais voir la politique agricole et les subventions disparaître. Beaucoup de fermiers britanniques voulaient quitter l'Union européenne pour cette raison, pour être débarrassés de la PAC, pour qu'on puisse travailler comme on veut, avec un prix plus juste. Ce sera dur, mais en même temps, ce sera assez excitant d'essayer d'avoir un meilleur prix.
La Nouvelle-Zélande l'a fait. Ils ont dit qu'il y avait des années maigres pendant un certain temps, mais que ça repart et qu'ils commencent à faire du profit. C'est possible de changer.
La famille d'Andy a-t-elle des chances de gagner son pari? Voici la réponse de Laurent Vernet.
Alors, je ne peux pas parler de leur business, parce que je ne connais pas leur business, mais c'est vrai qu'ils ont une certaine confiance dans l'avenir. Et on le voit dans un certain nombre d'éleveurs. Ce sont des gens qui sont relativement positifs et qui trouveront une solution à tous leurs problèmes. Ils attendent pas que l'État vienne pour les aider, ils se débrouillent et ils trouvent la façon pour survivre. Non seulement pour survivre, mais pour vivre et pour vivre bien. La PAC est très importante pour les petits éleveurs qui sont sur la côte ouest ou la côte du nord, qui ont des toutes petites fermes et qui doivent vivre dans des conditions très difficiles. Ces gens-là ont besoin d'un support.
Laurent is absolutely correct. Scotland is a hugely variable country in terms of its agricultural profile.
Laurent a entièrement raison. L'Écosse a un paysage agricole extrêmement varié. Ici, la terre est de bonne qualité, proche des marchés, etc., etc. Et donc, les coûts de production et les rendements de la terre sont plus favorables. Mais clairement, dans d'autres régions d'Écosse, la terre est moins fertile, le climat est défavorable, c'est éloigné des marchés. Donc, les coûts de production et d'acheminement de la production sont plus élevés. Notre production en fruits et légumes sur la côte est très différente de l'élevage qui est pratiqué à l'ouest.
C'est vrai que jusqu'à présent, l'Europe a offert un certain nombre de supports, mais ça va un peu plus loin. Je pense que l'Europe a un intérêt pour les agriculteurs et la production alimentaire que le gouvernement de Londres n'a pas. Le gouvernement de Londres, c'est la City, c'est la banque. Mais l'agriculture, ça ne fait pas forcément partie de leur priorité. Alors qu'en Europe, l'agriculture a toujours fait partie de la priorité. Donc là, ça va être un changement politique assez intéressant et voir comment le pays va négocier ça. C'est vrai qu'Édimbourg est un peu différent. Le gouvernement à Édimbourg a un intérêt dans l'alimentaire. Mais quel genre d'autonomie le gouvernement d'Édimbourg a par rapport au gouvernement de Londres, c'est une autre question.
Dans l'espoir justement de retrouver un peu d'autonomie, la chef du gouvernement écossais, l'indépendantiste Nicola Sturgeon, a réclamé à Londres un nouveau référendum sur l'indépendance. Pas vraiment la solution miracle, selon Johnny Hall.
Most farmers, I think, would prefer to remain as part of the United Kingdom.
La plupart des fermiers, à mon avis, préféraient rester membres du Royaume-Uni. Après tout, notre plus grand marché, c'est pas l'Europe, notre plus grand marché, c'est l'Angleterre. Et il y a d'autres avantages à faire partie du Royaume-Uni quand il est question de négocier des traités de libre-échange et quand il est question de trouver des fonds pour de nouvelles subventions. Donc si on pèse le pour et le contre, quand beaucoup de gens commenceront à remettre la question de l'indépendance sur la table, je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt de l'agriculture écossaise si l'Écosse venait à prendre ce chemin-là.
Le bœuf d'Écosse sera-t-il sacrifié sur l'autel de la politique? Pour les éleveurs comme pour les exportateurs, le business d'abord. Ils vont donc tout faire pour qu'il continue à être mitonné, dégusté dans les cuisines du monde entier. C'était un reportage de Dominique Bayard, réalisation Lorenzo Lacchesi. Cette émission a été produite avec le soutien financier de la Commission européenne.
Stand where the peaks meet the sky and the lochs meet the sea, where the rivers run clear and the bracken is golden as sun, and the cares of tomorrow must wait till this day is done. Till this day.